Moi, je peux peut-être proposer déjà une question croisée, parce que j'écoutais et je me rendais compte qu'on ne rencontre pas forcément tous les mêmes problèmes. Et je me pose vraiment la question du type de lieu, du profil des participants. Donc, bah, on parle quand même beaucoup là de personnes dépendantes, de handicap, voire polyhandicap, ou de lieu de vie, enfin, ou lieu de fin de vie. Et donc, je me pose aussi la question de la durée de la prise en charge. Rencontrer quelqu'un pendant 5-10 ans, c'est pas comme rencontrer quelqu'un deux fois. Est-ce que Monique, Diaker, André, vous auriez quelque chose à dire sur la, comment, ouais, le profil, le type de handicap et la durée de prise en charge? Module un peu les attentes et on passe dans de l'animation, de l'occupationnel ou plutôt dans la thérapie.
Je veux bien répondre, ça me permet de
Oui.
répondre à une question qui avait été posée dans le feed là. Effectivement, pour ma part, en tout cas, c'était donc des cycles de 10 semaines, ce qui est à la fois ce qui peut être perçu comme très court et très long. Pour ma part, je le vivais comme relativement court, puisque j'avais le sentiment que lorsque le cycle se terminait, c'était le moment où on commençait vraiment à rentrer dans la relation thérapeutique. Donc, j'aurais eu envie de poursuivre au moins un an. Bon, voilà, évidemment, je m'accommodais de la réalité de ce qui était proposé. À quelle distance entre chaque séance? C'était toutes les semaines. C'était des séances de 2 fois 1 heure et demie. Donc, le temps de parole avec la psycho, 1 heure et demie, et temps d'heure thérapie, 1 heure et demie. Donc, il y avait quand même c'était une chance effectivement de se voir toutes les semaines parce qu'il pouvait y avoir un continuum thérapeutique qui se créait, une relation aussi. Et du coup, on pouvait établir justement bah, l'espace de confiance. Moi, j'avais besoin d'au moins 3 séances pour que les gens puissent rentrer dans l'espace du jeu. Donc d'abord de proposer, on va dire, des choses qui appartenaient vraiment au domaine du théâtre pour ensuite rentrer dans l'espace de la thérapie. Et il y avait une question qui disait, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a 2 étapes dans notre métier? Donc d'abord le prendre soin et ensuite rentrer en thérapie. Effectivement, je remarquais que lorsque les patients avaient d'abord rencontré ce prof de théâtre, ils étaient prêts plus rapidement à entrer avec moi dans l'espace de la thérapie. C'était différent pour ceux qui ne l'avaient pas rencontré, où il fallait d'abord bah, déjà simplement commencer à pouvoir se déchausser, ce qui n'est pas si simple, à ne pas être assis sur une chaise, à se déplacer dans l'espace, à être au contact les uns des autres. Donc tout ça, c'est des choses à établir et ça ne se fait pas en 5 minutes et pas même en 2 ou 3 séances. Donc je considérais essentiel de pouvoir ouvrir tout cet espace-là avant d'aller dans la thérapie. Et parfois, on ne pouvait pas y aller parce qu'effectivement, effectivement, les blessures étaient trop importantes et le cadre de la confiance devait s'installer peut-être plus longuement que pour d'autres.
Oui, sur la durée, je dirais brièvement que je pense que ça dépend beaucoup des pathologies, des maladies, etc. Si je prendrais 2 exemples, moi, quand je travaillais en neurochirurgie avec des malades dans le coma profond ou en début de sortie de coma, parfois, en 3, 4 séances, il pouvait y avoir des résultats parfois dits spectaculaires où la personne sortait par des méthodes actives de stimulation liées à la musicothérapie, donc du coma. Mais parfois, ça peut être beaucoup plus long. Et puis, avec des enfants autistes sévères, avec une forme d'autisme sévère, ou qui n'avaient pas eu encore accès à la dimension ni ludique ni au langage, là, ça pouvait s'étaler sur 5 ans, 6 ans. Donc, je pense que là, ça dépend vraiment des pathologies et des formes de prise en charge, en effet.
C'est pas tellement pour moi des questions de temps et de voilà d'accompagnement. C'est déjà d'identifier. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé de personnes en situation de dépendance, des personnes vulnérables, parfois des personnes qui ne sont pas elles-mêmes en mesure de pouvoir faire des demandes d'accompagnement. Et du coup, c'est en fait être à l'attention de ces personnes, de savoir en fait où elle se situe et d'identifier, comme l'a dit André, si là il y a une nécessité d'aller travailler en thérapie un point particulier, ou bien si l'énergie, ce qui est manifesté, est plutôt de l'ordre d'aller vers une recherche de loisirs, d'apprentissage peut-être, d'une médiation, etc. Et en fait, à partir de là, on a des outils pour pouvoir le faire, et je pense qu'en travaillant en équipe, c'est tout à fait abordable. Et en identifiant du coup la nécessité d'une thérapie, là, on va rentrer comme tout un chacun avec une temporalité qui va être plus ou moins longue selon le travail qui est mené. Moi, il y a des personnes que j'ai accompagnées de manière très courte, sur 1 ou 2 mois, parce que c'était suffisant pour ce qu'il y avait à mener, même des personnes en situation de dépendance. Et il y a des personnes que j'accompagne encore au cabinet qui viennent, qui sont des personnes en situation de handicap, sous tutelle, etc., et qui ont un travail long. Et aujourd'hui, je suis à 4 ans d'accompagnement. Et en fait, c'est pas tellement le temps, mais c'est vraiment d'identifier avec les équipes et d'identifier avec la personne qui vient nous voir ou que l'on rencontre, là où se situe la nécessité.
Je mettrais juste la distinction entre ce qui peut se vivre dans l'institution et en libéral, là où en libéral, on peut avoir la liberté justement de suivre des gens beaucoup plus longuement en s'adaptant réellement à leurs besoins du moment et où l'institution va nous mettre des limites peut-être plus frustrantes parce que ça répond à des réalités aussi financières, politiques, etc., qui du coup peut-être se distinguent de l'objectif thérapeutique et
Mais
nous
tout à l'heure, tu as
impose.
parlé tu as utilisé un mot qui était intéressant, c'est le contournement. Et du coup, là, ben justement, c'est dans la démarche éthique, il peut y avoir cette réflexion-là du contournement en équipe, en se disant, OK, on a des cycles, on avait défini des cycles pour le groupe. Il se trouve que pour certains, c'est justifié, ce cycle-là de 3 mois est justifié, on a fait peut-être l'accompagnement, et puis peut-être que ça permet de se rendre compte que finalement, la nécessité est plutôt d'aller faire une proposition d'une pratique artistique plutôt qu'une thérapie, souvent c'est le cas. Et puis, du coup, de se dire, ben, sur le cycle suivant, certains du groupe, on ne change pas complètement l'entièreté du groupe, on en garde quelques-uns, ceux qui ont vraiment la nécessité de pouvoir continuer sur plus longtemps. Et puis, pour d'autres, eh bien, le cycle s'arrête, etc. Et ça, j'ai pu l'éprouver avec des équipes. Et clairement, c'est sécurisant pour tout le monde, en fait. Et c'est rassurant. Parce que du coup, on sent qu'on est vraiment au travail parce qu'on est à l'écoute et avec l'attention que l'on est censé avoir quand on est dans l'accompagnement. Et on le fait ensemble. Et ça c'est vrai que ben, voilà, en institution, moi, je pense que la stratégie, là, ça peut être du contournement, peut être intéressante, en tout cas. Voilà.
Super. Que je voulais évoquer, parce que c'est vrai qu'on parle là en cabinet libéral et c'est important. Je pense qu'il y a des mêmes problématiques dans certains cas en termes de prise en charge en institution ou en cabinet, parce que, en fait, la question qui est posée, c'est ceux qui font les prescriptions, qui font de l'orientation. Et si un chef de service, si un médecin psychiatre, si un psychologue n'a pas à l'esprit de s'interroger sur la même manière dont on doit s'interroger sur la précarité alimentaire, qui peut exister chez certaines personnes, on doit s'interroger sur la précarité culturelle de la personne qui consulte. Et j'ai vu souvent, plusieurs fois, en tous les cas, des adolescents, par exemple, autistes ou trisomiques. Les parents, bon, avaient remarqué qu'il avait envie de faire des percussions. Mais si le médecin dit tout de suite, a le réflexe de dire, ben, pas de souci, en effet, on va l'envoyer à l'activité, dans l'IME, à l'activité musicothérapie ou en cabinet libéral en musicothérapie. Et donc, s'il n'a pas dans son champ de vision, dans l'horizon qu'il voit, la question, je dirais, d'orienter aussi éventuellement vers le centre d'animation socio-culturelle à côté ou vers le conservatoire, forcément qu'il n'ira pas à cette proposition. Et c'est vrai que j'aime bien toujours quand même citer Van Gogh, hein, nous l'oublions pas, qui a dit, je me sens, il l'a pas dit, il l'a écrit à son frère Théo, je me sens imbécile de devoir demander l'autorisation de peindre à un médecin. Parce qu'en plus, souvent, le médecin, non seulement ne va pas orienter vers la culture, mais il va même pas se poser la question de savoir si les activités artistiques et culturelles sont développées au sein de sa structure, et y compris avec un accompagnement vers l'extérieur en milieu ordinaire. Donc, en tous les cas, par rapport au cabinet libéral, j'ai vu aussi ce problème-là.
Oui. D'où tout
Excusez-moi, je
l'intérêt
suis.
de se construire, pardon, je termine juste là-dessus,
Oui,
mais par
vas-y.
rapport à ça, se dire qu'effectivement, c'est important d'avoir autant un réseau de collègues professionnels libéraux de santé, de thérapie, comme des psychologues, des sophrologues, des ergots, etc. Autant que d'avoir un réseau à côté de soi aussi, dans la culture et artistique.